France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Bonjour, je suis Alexandre Kantorov. Je suis né à Clermont-Ferrand en 1997 et je suis pianiste.
Quelle est la différence pour vous entre les moments de répétition et les moments sur scène? Est-ce que dans le premier cas, on se protège? Est-ce qu'on donne tout sur scène? Et dans quelle mesure le concert est un révélateur?
Il le sera toujours parce que même avec les subterfuges les mieux trouvés pour se créer une impression de concert quand on travaille, on sait que c'est un subterfuge, donc on n'est pas prêt, on n'y croit pas nous-mêmes en fait. Donc, même si on s'enregistre, on ramène des amis, c'est pas la même chose. Il y a un vrai décalage et en même temps ce décalage il est satisfaisant parce que la répétition c'est le moment où j'ai l'impression on pose plein de possibilités d'interprétation, on teste le plus de choses, on approfondit certaines vraiment, on regarde ses priorités musicales, on dit sur l'œuvre, ok, il y a un passage clé que là, on sait que ce passage clé, on veut le faire de cette manière, mais je pense que maintenant, en voyant à quel point la scène nous fera faire des choses totalement différentes, c'est bien aussi d'avoir des certaines zones où on se laisse aussi, on a nos points culminants, on sait les moments où musicalement on doit obtenir quelque chose. Mais les arrivées et les sorties de ces points, c'est bien aussi de garder une sorte d'incertitude, je pense, maintenant. Chose que je faisais pas à l'époque, mais...
Est-ce que ça, le concert, donc le public, etc., la scène révèle à vous-même des choses de votre personnalité?
Totalement, ouais, totalement.
Et il y a des choses qui vous étonnent?
Oui, il y a des choses qui m'étonnent. Je pense que parmi les choses qui m'étonnent, il y a le fait que j'ai pas une expérience de dissociation, mais comme un acteur, j'ai besoin de rentrer dans un rôle un peu différent et je le vois sur scène en fait, je le ressens en fait les moments où je me sens le plus libre en musique, c'est les moments où je me suis à l'avance mis un peu dans une sorte d'état d'esprit qui me permettent de le faire parce que naturellement, si je monte sur scène sans trop réfléchir ou sans trop me poser de questions et juste monter sur scène sans sentir que le moment est important, soit soudain le stress monte d'un coup, soit, et du coup c'est sur scène, ça devient une sorte de combat dans l'arène, soit à l'inverse, je suis très mou et donc je sens que j'en ai besoin. J'ai besoin de sorte de me créer, pas un rôle, mais j'ai besoin de...
Une mise en condition?
Ouais, une mise en condition, une sorte de truc, une sorte de récepteur émotionnel où je suis plutôt calme dans la vie et en général. Et là, j'ai besoin au contraire d'être bien plus une sorte de réceptacle de toutes les émotions et de... Elle est importante la journée qui vient avant le concert, clairement. Elle amènera au moment du concert et c'est une sorte d'entonnoir et oui, ça... Je mets beaucoup d'importance sur ces moments avant, autant que sur le moment du concert, en fait.
Et le moment du concert, est-ce que le silence du concert, c'est un silence qui a une couleur à nul autre pareil?
Oui. Silence, il vient surtout le silence en plein milieu d'une pièce. Le silence du début, il est là ou il est pas là. Mais le silence au milieu d'une œuvre, ouais. Et là, il est très impactant. Sentir qu'il y a beaucoup de gens dans une salle et que il y a un moment où on s'arrête et vraiment il se passe rien. Et là, et en plus, il peut être insoutenable des fois où on a la tentation de tout de suite le couper et c'est ok, ça, on peut le tenir et oui, c'est magique, c'est des moments magiques, c'est des moments de jeu avec le public. On se rend compte que donner, ça a pu atteindre des gens en fait et que oui, on est en phase pendant un court moment.
Il y a une espèce de, je sais pas comment dire, comme une sorte de super pouvoir aussi à maîtriser les phénomènes harmoniques, acoustiques, de savoir aussi, vous parliez de cette échappée entre les notes aussi, qui est l'un des deux modulateurs auxquels on a accès quand on est pianiste, quand on sait avec art les manier, on a...
Oui, c'est un super pouvoir totalement, et c'est quelque chose que je recherche activement, c'est de comprendre plus l'impact entre certaines notes, de comprendre le timbre et l'attaque qu'une note peut provoquer. En fait, je parlais de ce laboratoire que je trouvais à Pletnieff, et ça fait partie de ces idéaux de pianiste. Ce serait idéalement, on a besoin pour l'instant de se fixer quand même des choses dans l'interprétation pour se préparer sur scène, et idéalement, c'est vrai, ça serait incroyable. incroyable, d'arriver à une sorte de compréhension, de maîtrise, bien sûr, d'avoir quand même de savoir où les doigts vont, mais d'avoir très peu mis, d'avoir très peu fixé l'interprétation, en fait. On a besoin de fixer beaucoup des choses quand même pour se rassurer, pour avoir des réflexes sur lesquels compter. Mais oui, l'idéal, ce serait d'avoir cette liberté, d'avoir, de savoir évidemment où est-ce que les doigts vont, mais d'avoir encore une sorte de page vierge et qu'on pourrait compléter tout de suite sur le moment du concert, avec assez de, voilà, de connaissances, de bagages sur l'œuvre et sur le piano en général, pour vraiment la recréer, entre guillemets.
Évidemment que le corps, c'est le corps qui fabrique le son. Je me rappelle que Maria Joao Pires, au même micro que vous, elle m'avait raconté que pour elle, le son, il venait des cuisses, quoi. Vraiment, c'est pas juste le torse, c'est pas juste les épaules, le poignet, le bras, c'est tout le corps qui est convoqué. Mais de la même manière, ce son, il va sculpter votre corps. Vous qui disiez que vous aviez les mains en beurre quand vous étiez enfant, je veux dire, vous sentez aussi que le corps change?
Oui, oui, bien sûr. Bah déjà, à la fois par le piano et puis je parle par la vie.
En fait, par l'âge, votre grand âge.
C'est la fin déjà. Mais ça paraît stupide, mais oui. Enfin, je ne sais pas si c'est un mélange de la tête et des mains qui changent, mais effectivement, il y a des choses qui paraissent plus faciles à 16 ans qu'à 26 ans. Après, il y a des choses aussi qui paraissent plus faciles maintenant, heureusement. Mais oui, il y a des choses qui changent. J'ai pris l'habitude de quand même tenir plus intensément et de creuser plus le son, donc ça vient que j'ai plus de mal maintenant à retrouver la façon dont je jouais, c'est-à-dire très léger, très facile, qui pouvait me sauver. Il y a certains traits, c'était génial, en fait, c'était très facile, et aujourd'hui, là, c'est bizarre de devoir s'alléger dans certains passages, en fait. Et donc, oui, bien sûr, il y a des choses, des tendances dans lesquelles on plonge son corps, mais heureusement, elles sont changeantes. Elles peuvent même, des fois, c'est des obsessions de quelques mois dans lesquelles on se met et ensuite, on s'en sépare. J'ai tendance à être un peu éponge, c'est-à-dire même quand j'écoute un pianiste marquant pendant une semaine, j'ai un peu tendance à le copier, essayer de copier son son, ses mouvements. Donc,
porosité, comme ça, un peu.
Un peu. Je pense pas que je fais partie de ces gens qui ont clairement une technique qui leur est très propre et qui soit très marquée et que on les voit, on reconnaît à chaque fois, en fait. J'ai un peu l'impression d'être un petit peu plus éponge. Ça varie vraiment en fonction des obsessions, des moments, en fait.
Et justement, ces phares, ces musiciens, pas simplement pianistes, qui vous accompagnent, cette semaine a été un peu lourde. On disparu successivement Byron Janis, Maurizio Pollini et Peter Udvush. Vous avez besoin d'écouter beaucoup d'autres pianistes et d'autres... Une nourriture essentielle.
Oui, pour moi, oui, clairement, c'est une nourriture essentielle, mais pas que de la musique pour piano, en fait, de la musique en général. Mais oui, bien sûr, d'entendre des interprétations différentes, pas forcément d'œuvres qu'on joue, mais de voir ce que les années ont permis à une personne de devenir, de produire. Et quand c'est des œuvres que je joue, oui, je les écoute peu. J'essaie de les oublier parce que il y a tellement de traditions d'oreilles, il y a tellement de traditions de disques marquants, le disque de légende qui façonne ensuite l'interprétation pendant des années. Et ensuite, on se rend compte, en vraiment regardant la partition, qu'il y avait plein d'autres manières de voir l'œuvre.
Finalement, c'est la partition qui est la clé de la liberté, d'une certaine façon.
Oui, oui, vraiment. Parce qu'elle a cette imperfection d'être juste une traduction à un moment d'un compositeur. Donc, elle est rien. C'est juste l'outil où on peut déchiffrer au plus près les intentions d'un compositeur. Mais c'est là où on voit que chaque compositeur a ses notations, que ça ne veut pas dire la même chose selon les compositeurs, qu'il y en a qui donnent beaucoup d'informations, d'autres très peu. Et il y a beaucoup de choses à trouver dans ce qui n'est pas écrit, beaucoup de choses à... Il faut prendre une décision à un moment. Cette quête qu'on a d'une sorte de vérité subjective propre à nous, et d'avancer, de créer notre lien avec un compositeur, il est propre à chacun. Et donc, il explique pourquoi, en fait, malgré tout le lien qu'on peut avoir et toute cette quête qu'on a de trouver l'esprit d'une partition, on l'écoute par quelqu'un d'autre qui fait tout opposé, et ça peut être convaincant.
Thank you.
se nourrir d'autres interprétations, se nourrir de tout le corpus du compositeur, à la fois en l'écoutant, mais aussi peut-être en essayant de l'arranger. Est-ce que tout ça, c'est une manière de chercher des timbres différents et d'accroître son intimité avec le compositeur?
Oui, bien sûr. Oui, j'ai beaucoup déchiffré toutes les transcriptions de symphonies, parce que les opéras aussi beaucoup, parce que c'est peut-être des liens plus concrets, en fait, soudain, par rapport à la musique pour piano. C'est-à-dire qu'à une symphonie, il y a des choix d'instrumentation et qui ont des timbres et des couleurs particulières. Et quand on retrouve ces mêmes mélodies, ces mêmes musiques au piano, voilà, on a tout de suite une sorte d'image avec un peu plus de niveau sur les plans sonores. Et l'opéra, c'est encore mieux. C'est qu'on a le texte carrément. Donc quand Tchaïkovski, il écrit une mélodie pour accompagner un sentiment, une émotion, quand on la retrouve, d'autre part, dans ces œuvres qui sont pas extra-musicales, bah là, on a aussi quelque chose à quoi s'accrocher. Donc oui, bien sûr, on cherche des choses, on a besoin de s'accrocher à d'autres choses, à l'art d'une époque, l'art visuel, jouer dedans de Liszt et de voir, même si c'est après, c'est de voir les illustrations de Gustave Doré, de voir des visions de l'époque du mouvement Capriccio, en peinture, de voir, ouais, ça fait du bien aussi de se raccrocher à d'autres sensations que simplement l'oreille. Et donc, oui, on cède, on essaye de céder au maximum. Ouais.
Vous avez parlé de l'opéra. L'opéra, évidemment, il y a le texte, il y a cette espèce d'art total, il y a la mise en scène aussi. Ouais. Je crois que c'est une découverte, en fait, qui arrive assez tard dans votre vie de musicien.
Ah oui, bien sûr. L'opéra en lui-même, mes parents m'ont pas sorti beaucoup au théâtre et à l'opéra. C'est vraiment venu même, je pense, après le concours de Tchaïkovski, en fait, juste là, d'être au Mariinsky, j'ai beaucoup vu d'opéra. J'ai commencé à me plonger plus dans ces partitions. Beaucoup Wagner à un moment, beaucoup, voilà, parce qu'il y a ce plaisir du puzzle sur 16 heures avec le ring, de voir tous ces leitmotifs, de voir tout ce qu'ils représentent, de voir ces grandes œuvres ambitieuses. Et oui, ensuite, le plaisir de la mise en scène, c'est venu beaucoup de ma compagne, en fait, parce qu'elle est metteur en scène. Elle vient d'un monde de théâtre et elle a travaillé à l'Opéra de Paris beaucoup. Donc, quand on s'est rencontrés, elle allait se présenter justement à l'Opéra de Paris. Donc, on a beaucoup échangé là-dessus, parce qu'elle, la partie musicale, ses parents ont toujours adoré la musique, ont été mélomanes, mais elle a découvert plus de choses sur la musique, et moi j'ai entièrement découvert toute la mise en scène. Nous, on a de la chance, c'est qu'on peut se cacher derrière un art abstrait. Même les choix les plus provocants, entre guillemets, qu'on puisse faire toucheront que l'oreille, alors que un choix provoque en mise en scène, on peut pas s'échapper, en fait. On peut pas échapper à la puissance d'un visuel et d'une construction entière et d'un changement total d'histoire il y a plus de risques, mais en même temps, les choix, on les voit tellement bien que du coup, ça permet de mieux cristalliser aussi certaines choses qu'on fait. Donc, ça me reste en tête ensuite de me dire qu'en fait, est-ce qu'on ferait autant de choix sans réfléchir, si c'était aussi visible et si c'était aussi puissant que simplement juste prendre un peu plus de temps là et mettre plus de pédales là, en fait. Donc ça, oui, c'est passionnant, en fait.
Et est-ce que le côté narratif dans votre quotidien de pianiste, c'est quelque chose d'important? Je veux dire, quand vous vous lancez dans une sonate, est-ce que justement vous vous sentez conteur, narrateur? Est-ce que vous-même vous vous racontez quelque chose?
Ouais. Ça dépend des moments, mais oui, en général, il y a des choses pareilles. C'est ce qui nous débloque quand on compte une histoire. C'est évident que même les compositeurs les moins extra-musicaux, qui ont mis le moins de textes et qui ont mis le moins de clés à ce niveau-là, il y avait des histoires. Ils avaient des raisons d'écrire telle mélodie. Ils avaient donc on part de choses sur lesquelles on se raccroche. Et oui, on serait soi-même une narration. Oui. Kein Knabe singet sich durch Wiede, kein Mädchen in der Blütenzeit. Ihr sammelt nur von meiner Liebe und spricht sie meiner Treue an.
France Musique, les grands entretiens d'Alexandre Kantorov.
Vous avez joué avec Mathias Goerne, et je me demandais quelle avait été l'influence pour vous d'accompagner un chanteur, c'est-à-dire à quel point est-ce que ça colore le Schubert qu'on joue tout seul chez soi après, des pièces pour piano solo, etc. Qu'est-ce que vous retirez de ce travail?
Ah, c'était énorme, c'était énorme de travailler avec Mathias Goerne, parce qu'on a travaillé que Schubert, mais justement, c'était génial, parce que alors lui, il a un rapport aussi très fort au texte, c'est-à-dire qu'il il analyse le texte vraiment comme un acteur analyserait son texte, c'est-à-dire il le décortique dans tous les sens. Donc ça nourrit beaucoup quand on se retrouve dans des sonates de Schubert où clairement c'est des chansons, c'est de la mélodie pure, et oui, on pourrait mettre un texte dessus, en fait on pourrait facilement créer un texte. Ouais.
Vous parlez des compositeurs, et compositeurs aussi vivants. Vous en avez en tout cas au moins deux qui vous ont dédié des œuvres. Ouais. Ça fait partie de la mission, j'allais dire, de l'artiste que vous êtes aussi, la musique de votre temps.
Ouais, 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 ouais. C'est quelque chose que je découvre très récemment, parce que là, je commence maintenant encore à faire des commandes. Là, Anders Hillborg, Kalevi Aho, il y a des choses qui vont arriver, mais oui, 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 c'est.
Donc il y avait Guillaume Connaisson.
Il y a eu Guillaume Connaisson, voilà, et il y a eu José Cérébrier. Il y a longtemps, c'était la première œuvre qu'on m'a dédiée. Mais alors, oui, ça fait partie de ma manière, enfin, de raccrocher quand même la musique dans l'ordre logique des choses. C'est quand même qu'on est, on est des interprètes et on travaille avec des compositeurs, au moins, si on ne l'est pas soi-même, malheureusement. Et ça crée aussi beaucoup de bonnes choses, en fait. Parce que oui, on se perd dans un monde de mythes en interprétant. On se perd avec des fantasmes de beauté, avec des personnages imaginaires qu'on se crée, parce qu'on, quand on joue Tchaïkovski, on joue son personnage de Tchaïkovski qu'on s'est conçu avec, et donc des choses aussi géniales que imaginer que dans la symphonie pathétique, le dernier mouvement, ça serait sa lettre de suicide, que, et en fait d'avoir un compositeur qui va te dire non, c'est juste il a eu l'idée que de faire un mouvement lent pour finir, il s'est dit ça serait intéressant, rien de plus, il y a un contraste fort entre le troisième et le quatrième mouvement.
C'est un peu triste, ça.
Il était très fier de sa symphonie. Mais c'est triste et en
ça
même temps,
désacralise.
C'est rassurant sur certaines choses. C'est bien aussi d'avoir, de se rendre compte, voilà, de la logique de certaines choses, de certaines décisions.
Vous dites que vous passez commande. Vous avez aussi eu cette année quand même une belle surprise, j'imagine, oui. En étant le lauréat du Gilmore Artist Award. Donc expliquer ce que c'est que cet award qui n'arrive que tous les 4 ans, c'est comme le concours Tchaïkovski.
C'est un peu ça, c'est le concours où on se présente pas, en fait. Ça vient de Henry Gilmore aux États-Unis, qui était un richissime et un immense mécène, et il a eu de son vivant à Kalamazoo, dans une petite ville aux États-Unis, il a tenu à avoir les plus grands pianistes, il a tenu à aider vraiment les pianistes, et donc il a créé à sa mort, il y avait cette fondation, et avec ce prix qui serait donné tous les 4 ans à un pianiste. Et donc il y a ce jury de gens qui sont soit des anciens patrons d'orchestre, des organisateurs, aux États-Unis, et ils se réunissent. Et ils décident, voilà, ils font une liste de par exemple 25 pianistes, et pendant 4 ans, ensuite ils vont les écouter. Et ils sont là, ils écoutent, et ensuite ils se réunissent tous les 6 mois, ils disent, lui, on va l'écouter plus. Et donc ils ont fait ça pendant 4 ans à m'écouter. Et vraiment, ils vont dans des endroits, mais pas du tout juste les grandes salles. Ils sont allés à la Chaux-de-Fonds pour un récital en Suisse, où je faisais un récital pour ensuite enregistrer vraiment dans la petite salle, et ils viennent, et donc ils mettent vraiment, vraiment du cœur là-dedans. Et à la fin, voilà, ils en choisissent un, et de manière très théâtrale, c'était en Italie pour un concert, il y a Diane, mon agent, Diane Dissaillant, qui me dit, voilà, ben, donc c'est toi qui vas l'avoir, et je me rends pas compte de ce que ça représente, et il me dit, voilà, donc c'est un prix pour t'aider, donc on va jouer à son festival, on a ce prix énorme de $300,000 pour ensuite faire un projet musical avec. Donc oui, effectivement.
C'est pour ça que je me demandais si jamais ça servait pas.
Ouais, ça fait partie, ouais.
Parce qu'il faut donc que ce prix-là soit utilisé de façon musicale, enfin, oui, serve votre vie de musique.
Ouais, exactement.
Avant ce prix-là, vous aviez déjà eu l'initiative de créer un festival avec des amis qui a commencé en 2022, donc c'est post-Covid. ces deux amis, c'est Lia Petrova et Aurélien Pascal. C'est parce que dans cette vie à mille à l'heure aussi, on a On a envie de petits Eldorado, de choses où on décide de tout.
Ouais, exactement. Des Eldorado, des endroits où on peut se retrouver, on a peu de temps. Et justement, je pense que le Covid, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. On habitait tous dans le même coin et on se voyait vraiment. Et c'est la partie positive qu'on a retirée du Covid. C'est donc on a cette petite nostalgie de bon, c'était quand même bien ces moments où on pouvait tous se retrouver. Donc, est-ce qu'on créerait pas quelque chose? On aurait notre semaine à nous et on pourrait aussi, voilà, se faire plaisir sur les programmes, décider des gens avec qui on a envie de jouer, d'avoir cette semaine, voilà, de joie musicale. On peut tous se retrouver ensemble dans un cadre génial. On est dans une magnifique maison à Chirac, on loge tous ensemble, on travaille ensemble, on joue ensemble. Et donc, surtout pour un pianiste solitaire qui a l'habitude quand même de voyager seul et de faire ses concerts dans sa bulle, ça fait partie des petits moments de paix chaque été. Et donc voilà, je sais pas où ça va nous mener, mais voilà, ça amène des belles choses. Là, on a Victor Julien Ferrière qui va ramener son orchestre Consuelo, donc il y aura 2 soirs avec lui. Donc on se laisse peut-être emporter aussi ensuite par là où le festival va nous emmener, mais l'idée principale, c'est qu'on soit tous ensemble dans cette maison et qu'on fasse de la musique et qu'on passe du bon temps.
Et la musique, vous voyez la vivre différemment? Enfin, je pense que vous avez évoqué la figure de Pletnev, par exemple, ou bien votre père, voilà, des gens qui aussi sont passés à la baguette. Alors, vous êtes tout jeune, on vous cueille au tout début, à l'orée de cette carrière. Mais est-ce que il y a d'autres branches comme ça musicales? Vous sentez que peut-être en germe, ça pourrait exister un jour, que ce soit, à un moment, vous avez dit, je sais pas quoi, malheureusement, je suis pas compositeur. Ou... Bon, alors peut-être que ce sera pas de ce côté-là, mais est-ce que...
En exclusivité ici, pour la première fois, l'annonce du chef d'orchestre.
Franck Bralet aussi.
Franck Bralet, oui, bien sûr, ouais. C'est vrai. Je sais aussi, c'est un répertoire magnifique que j'écoute beaucoup et qui me plaît. C'est beaucoup de choses être un chef. C'est ça, ce qui me fait déjà peur, c'est que en étant pianiste, j'ai aucun lien avec les instruments de l'orchestre. C'est-à-dire que tous les autres instrumentistes, s'ils veulent se mettre à la direction, ils ont au moins un lien facile où il se dit je suis violoniste, les cordes c'est bon, je peux travailler avec les cordes, ou je suis clarinettiste, je peux travailler au moins avec les vents. Nous on a rien, on a aucun lien légitime.
Oui, sauf qu'on a la vision de la... Quand on joue en musique de chambre, c'est celui qui a la partition, la vision
globale.
De toutes les
parties. Oui, c'est vrai, oui, on a la vision globale, ça c'est la bonne chose. Puis après, il y a le lien avec les gens, trouver sa propre technique, arriver à créer quelque chose. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, je sais que je me sentirais pas de le faire. Non, je sais pas. C'est peut-être le syndrome d'imposteur, mais en tout cas, si ça arrive un jour, ça sera vraiment... un endroit où peut-être comme Victor, j'aime bien ce que Victor a fait. Il a passé beaucoup de temps après à travailler et puis il a créé son orchestre où du coup il le façonne et il se construit avec. Et donc je vois ce modèle, je me dis c'est un beau modèle pour commencer la direction, et j'aime bien comment il y arrive et les projets déjà fous qu'il fait. Donc si un jour ça sera la direction, ça sera comme ça. Je me dis autrement, la composition, l'improvisation, c'est toutes ces choses là que je regrette un peu de pas avoir fait plus jeune, de pas avoir eu naturellement ces choses-là, parce que elles représentent une telle partie de la musique, elles représentent aussi une liberté folle en fait.
Et avec... parce que la recherche finalement passionnée de l'interprétation, ça coupe d'une certaine manière du domaine de la création, vous pensez ?
Ça peut, oui, ça peut. Oui. Ce rapport émotionnel et tortueux qu'on a avec l'interprétation et cette vision vraiment de haut d'un compositeur, ça, elle est assez fascinante. Ça dit pas non que je serai compositeur du tout, mais en tout cas, ouais, je vois ça de loin. J'espère un jour. Ça serait chouette. Ça serait chouette vraiment.
Thank you.
En mars 2022, à l'auditorium de Radio France, Alexandre Kantorov interprétait Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, prélude de Liszt, d'après la cantate BWV 12 de Bach. Et c'est ainsi que se referme cette série des grands entretiens avec Alexandre Kantorov. Réalisation Adrien Roch, prise de son Benjamin Perru, mixage Éric Boisset, attaché de production Marie-Christine Ferdinand, une série proposée par Judith Chen.
À réécouter sur francemusique.fr.